culturel.
Alors, on en parlait un petit peu plus tôt ce matin, Nadia. On connaît maintenant les célibataires de la prochaine saison de L'amour dans le pré.
Ouais, L'amour est dans le pré, 8e saison, et on voulait de la diversité cette saison, donc on est allé chercher des célibataires de tout âge. Donc on dit que pour la première fois, il y aura un des candidats, le plus vieux en fait candidat de l'histoire, Nicolas, qui est âgé de 57 ans, qui est père de 5 enfants, mais qui recherche bel et bien l'amour, parce que c'est toujours ce qui est important pour les producteurs de l'émission. Ils veulent des démarches sérieuses, ils veulent des gens qui sont vraiment là pour trouver l'amour, parce qu'on sait que les statistiques en plus de L'amour est dans le pré sont quand même très bonne. Les couples durs, et il y a plusieurs enfants, des mariages aussi qui survivent de ça. Donc, ils ont reçu 150 candidatures et ils voulaient avoir un casting varié. Ça a été le cas. Il y a une seule femme qui fera partie des candidats. Et par la suite, bien, une fois que les célibataires sont dévoilés, il faut en sélectionner. Et ça, c'est les gens, c'est le public qui vont en quelque sorte voter. Ceux qui vont recevoir un peu plus d'intérêt, bien, c'est eux qui vont être sélectionnés pour l'émission, parce qu'en fait, on va en prendre 5 candidats. Et par la suite, les célibataires vont pouvoir se proposer. Donc, reste à voir quel candidat restera. Ce sera ceux qui seront plus populaires. Mais la liste complète des célibataires est déjà disponible sur nouveau.ca si vous voulez déjà aller faire votre choix. Ou peut-être vous inscrire.
Ben oui, merveilleux. On va surveiller ça, bien sûr. Mais c'est plus crédible, je dirais, cette émission-là que d'autres émissions.
C'est comme plus vrai, moins. Ouais, on est moins dans le fla-fla, là.
Mais le monde n'a pas l'air artificiel non plus. T'sais, on les a pas juste choisis parce qu'ils ont des gros ci et des gros ça. Ils les ont choisis parce qu'ils avaient un intérêt réel pour rencontrer quelqu'un de ce milieu-là, un petit peu plus rural, agricole, etc., etc.
Oui, okay, et de parfait. Vivre cette vie-là.
Ouais. OK, plus l'enquête avance, plus on apprend que d'autres artistes ont été atteints par l'incendie de Universal Music en 2008.
Et c'est une enquête du New York Times qui ont sorti ça là, en début juin, en disant d'après moi, il y a eu plus de dommages qu'on le disait. On parle de 700 artistes, dont plusieurs Canadiens, entre autres Bryan Adams, Joni Mitchell, Tragically Hip, Rufus Wainwright, qui finalement s'ajoutent à la centaine d'artistes qui ont été touchés par cet incendie-là. C'est un entrepôt qui était loué par Universal Music Group, où on laissait justement des archives musicales. On parle de 500 000 enregistrements des artistes comme Louis Armstrong, des choses originaux qu'on ne retrouvera jamais. Puis on avait minimisé l'ampleur de l'incendie en 2008. Et là, tranquillement, avec l'enquête, on est en train de se rendre compte qu'il y a plus d'artistes, qu'il y a plus de problèmes qui sont arrivés. Et Bryan Adams, ben lui, il voulait souligner, en 2014, il voulait souligner les 30 ans de son album sorti en 84 qui s'était vendu à 12 millions d'exemplaires. Donc, il avait envie de rééditer. Et quand il avait communiqué avec Universal Music Group pour avoir ses enregistrements, parce que c'est eux qui détiennent le catalogue, on lui avait dit, ouais, on les trouve pas, là, on sait pas trop. Puis, bon, il n'avait pas dit qu'on les avait perdus dans l'incendie de 2008. Et là, avec l'enquête, s'est rendu compte, bon, ben c'était probablement pour ça que j'ai pas pu y trouver. Heureusement, lui, il avait ses archives personnelles, il a pu rééditer son album en 2014, mais il y a d'autres artistes qui voudraient faire ça aujourd'hui, dont ils n'auraient pas de sauvegarde de leur côté. On se retrouverait un peu plus dans le trouble. Donc, plus l'enquête avance, bien, plus on se rend compte qu'il y a des artistes qui sont touchés. Et il y a déjà quelques artistes qui ont décidé là, de partir, de déposer en fait des poursuites judiciaires justement contre Universal Music Group, vu qu'on n'a pas annoncé, on ne l'a pas dit. Puis là, on est en train de se rendre compte qu'il y a plusieurs artistes qui sont touchés.
OK. En 30 secondes, Nadia, qu'est-ce qui va se passer avec Star Academy?
Bien, je vous annonçais, je pense que c'est la semaine passée ou l'autre d'avant, là, que TVA avait peut-être envie de mettre une petite pause à la voix pour ramener Star Academy. Mm-hmm. On sait que Star Academy a été diffusé à TVA, ça a été populaire. C'était produit par Julie Snyder et animé par celle-ci. Maintenant, on l'a mis dehors de TVA.
Ouais.
Mais Julie Snyder a quand même une option. Ça fait 17 ans qu'elle renouvelle son option parce que les droits appartiennent à un géant néerlandais qui s'appelle Endemol Shine. Donc, elle renouvelle toujours son option pour s'assurer de l'avoir, mais son option finit dans 3 jours, soit le 30 juin.
Oh oh!
Et justement, la semaine passée, les dernières semaines, TVA s'est dit attends un peu. Et là, on s'est mis plus sur les réseaux sociaux puis sortir en nouvelle sur leurs différentes plateformes pour tester, voir si les gens seraient intéressés à revoir Star Academy. Les gens sont intéressés. Sans Julie Snyder, ça semble être la problématique. Et de son côté, Julie Snyder, elle a son option. Il reste 3 jours. Elle a voulu l'emmener à VTL. Mais est-ce que le géant à qui appartient les droits de Star Academy va vouloir avoir VTL ou choisir TVA parce qu'ils font déjà beaucoup de projets avec TVA? TVA qui a une plus grande plateforme, visibilité et de moyens que VTL. Donc, ça semble être la guerre de ce côté-là. Donc, on se dit, est-ce que Julie Snyder va réussir à renouveler parce qu'il reste trois jours ou si TVA va justement aller quand même lui couper l'herbe sous le
pied? Pas si Pécopé va être content de faire un autre chèque à Julie Snyder.
Ouais, ben en fait, elle a les droits, mais si Edemol décide de pas renouveler son option, ben TVA a le champ libre.